Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 17. Genèse chapitre 2, versets 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, on va demander au Seigneur de nous donner une bénédiction sur notre étude, notre sermon. Alors, notre Dieu, nous venons à ta présence. Nous nous reconnaissons, bien sûr, Seigneur, tes enfants, nous en sommes très reconnaissants. Et nous nous reconnaissons également pécheurs, Seigneur, et nous avons besoin que ce matin, que tu nous pardonnes nos péchés. On te demande pardon pour tous nos péchés, ceux que nous avons commis depuis la dernière fois que nous sommes venus au trône de la grâce, ceux que nous avons commis dans nos pensées, ceux que nous avons commis dans nos actions, dans nos paroles, dans nos omissions et même dans nos fautes secrètes. Seigneur, ce matin, nous voulons que nos cœurs soient blancs comme neige et que nous soyons dans un état pour recevoir ta parole, l'accueillir et la laisser faire son œuvre en nous pour nous rendre davantage semblables à Jésus-Christ. Alors, Seigneur, que ton esprit nous guide et illumine notre intelligence et toute notre être de manière à ce que non seulement la parole soit comprise, mais, Seigneur, qu'on reconnaisse les principes que tu veux nous enseigner et les choses que tu veux changer dans nos vies à l'aide de ces mêmes principes. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui « Éden, le jardin de Dieu est révélateur ». Alors, il est révélateur de la provision divine. On va voir qu'à l'intérieur du texte, Dieu a vraiment pourvu pour le premier couple humain, mais bien entendu, c'est annonciateur de ce qu'il était aussi pour voir aux besoins de l'homme après. Ça va du verset 8 à 15. Révélateur aussi de la probation divine. On sait que quand Dieu dit « tu mangeras pas », c'est une probation, c'est comme un test. Le Seigneur voulait le mettre à l'épreuve pour voir s'il demeurait obéissant. Malgré qu'il était dans un environnement parfait, un environnement, on ne peut avoir un meilleur environnement que celui que l'Éternel l'avait placé dedans. Alors, la révélateur de la probation divine, ça c'est dans les versets 9, 16 et 17. Et on veut parler aussi d'une troisième forme de révélateur d'une prophétie divine. Quand on regarde la section des Écritures qu'on veut étudier, on va voir que quand Dieu parle du paradis terrestre, à quelque part déjà, il y a en germe là-dedans toute une prophétie concernant le paradis céleste. Alors, on va regarder ces trois aspects-là. Alors, dans les premiers versets du chapitre 2, on avait appris que le nom que Dieu utilisait pour parler de lui-même dans ses relations avec son peuple était le mot « Jéhovah Elohim ». Et dans la section qu'on continue d'étudier aujourd'hui, il utilise encore le nom Jéhovah Elohim. On rappelle que Jéhovah, c'est le nom que Dieu utilise quand il veut parler du Dieu qui est en relation avec son peuple, donc le Dieu de l'Alliance. Et Elohim, c'est le nom de Dieu qui est au pluriel, parce qu'en hébreu, la terminaison d'un mot en « im » veut dire que c'est un mot au pluriel. Donc, il utilise le mot « Jéhovah Elohim » pour parler du Dieu en relation avec son peuple par l'Alliance, et aussi Dieu, le Dieu trinitaire, parce que le Dieu qu'on peut utiliser au pluriel, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on voit que Dieu parle, veut nous dire des choses concernant plusieurs choses, la provision, l'approbation et la prophétie. Alors, on avait appris dans les premiers versets du chapitre 2 que Jéhovah Elohim avait créé Adam à partir de la poussière de la terre et qu'il avait soufflé dans ses narines un souffle de vie et qu'à cause de cela, il est devenu un être vivant ou selon d'autres versions, comme la version Darby, Martin, Osterval et King James, utilisent « âme vivante ». Alors, à cause du fait que Dieu souffle dans les narines d'Adam, il devient une âme vivante. Maintenant, Jéhovah Elohim va nous révéler le paradis terrestre dans lequel l'homme a été placé par Dieu lui-même. Parce que dans le texte, on a remarqué que Dieu dit que c'est lui-même qui a placé Adam dans le jardin d'Éden. Donc, il voulait que l'homme soit dans des conditions de vie absolument idéales. Alors, il voulait lui donner cet endroit-là pour plusieurs raisons, pour son plaisir et aussi pour son bonheur. Et dans le même passage, on apprend la fameuse probation, un temps de mise à l'épreuve où Dieu lui dit « Tu peux faire tout ce que tu veux, manger tout ce que tu veux, accepter que je te dis ne mange pas de cet arbre-là. » C'est comme, dans le fond, c'est plus un test d'obéissance. Il lui manquait absolument rien. Ça aurait été la chose la plus facile pour lui d'obéir au Seigneur. Le fait qu'il ait désobéi, on sait que ça va avoir des conséquences très graves à cause de ce qu'on sait du reste des Écritures. Alors, l'ensemble de la description du Jardin d'Éden, qu'on pourrait appeler le paradis terrestre, n'est pas sans nous suggérer fortement le paradis céleste. Ça va être dans notre troisième partie. Donc, on regarde le passage dans l'aspect de la prophétie, que même si on lit que Dieu avait pourvu pour l'homme des conditions idéales, il l'avait placé aussi face à un choix moral qu'il se devait de faire, mais aussi le texte, quand on est moindrement attentif, qu'on le compare avec d'autres sections des Écritures, on voit que vraiment il y a un aspect prophétique à ce passage-là. Alors, dans sa bonté infinie, Jéhovah Elohim a lui-même aménagé un lieu où l'homme trouvera absolument tout ce dont il a besoin pour vivre une vie parfaitement heureuse et remplie de plaisir. C'est intéressant de regarder parfois la signification des mots qui sont utilisés dans les Écritures, comme le mot « Éden », ça veut dire quoi? Parce que dans l'hébreu, ça a une signification. Ça veut dire, littéralement, « plaisir, délice » au pluriel. Le mot « Éden », disons que Dieu a placé l'homme dans un jardin, et si on le traduisait, on pourrait utiliser le mot « plaisir » et on pourrait utiliser le mot « délice » au pluriel aussi. Donc, il l'a placé dans un endroit où il n'y avait absolument aucun de ses besoins, qui n'était pas comblé de façon absolue. Alors, quand on examine le jardin originel, force est de constater combien le Seigneur veille au confort et aux besoins d'Adam et Ève. Alors, on va passer en revue quelques-unes des caractéristiques de cet endroit-là. Alors, quand on lit, c'est vraiment une provision divine pour le bonheur de l'homme, à cause même du mot utilisé, Éden, qui dit « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden ». Imaginez-vous Je ne sais pas si vous avez déjà été, vous avez déjà visité des beaux jardins dans votre vie. Ici, on en a un à Rouyn-Noranda, mais il y en a des plus beaux que ça, et plus grands et plus gros que cela. Par exemple, je me souviens d'avoir vu les deux parcs qu'il y a à Vancouver. C'est tellement extraordinaire, un beau jardin bien aménagé. C'est un festin pour les yeux, un festin pour le nez aussi, parce qu'on passe là-dedans, il y a toutes sortes d'odeurs de fleurs qui se promènent. On est littéralement émerveillé par un beau jardin humain. Mais imaginez-vous un jardin que c'est l'Éternel lui-même qui a planté. Alors tout, la disposition, les couleurs, la variété, tout là-dedans devait être absolument merveilleux. Il dit qu'il l'a planté du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y mit l'homme, donc c'est Dieu qui a décidé qu'il le plaçait dans un endroit absolument idéal. Alors, après ça, dans le verset 9, il dit « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. » Quand on se promène de le moindrement, ceux qui aiment aller dans le bois, on en voit toutes les couleurs. Mais il y a des arbres de toute espèce. Je ne sais pas s'il y avait des arbres, comme on voit en Colombie-Britannique, des genres d'arbres. Tu peux faire un trou dans l'arbre, puis un auto va passer entre les... tellement ils sont gros. Alors, ça dit qu'il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Ça veut dire qu'il n'y avait pas... toutes les espèces d'arbres étaient là. Et ça dit deux caractéristiques de ces arbres-là que le Seigneur nous a données. Agréable à voir. On regardait ce matin ceux qui ont vu le verset de présentation. On parlait de l'année. On a vu un arbre, je pense que c'était un pommier, je ne suis pas sûr, mais en fleurs, des fleurs roses. C'est-tu beau, un arbre? Je me souviens d'une fois, on avait été à une conférence en Ohio, à la ville de Lima, Ohio. Nous, on était partis de Québec, qui faisait, il neigeait presque, il faisait froid. Puis, vu qu'on a fait un voyage quand même, c'était quand même 16 ou 17 heures d'auto, on avait vu des arbres. On avait été, l'église est dans un quartier assez cossu, et en arrière de l'église, on avait été prendre une marche là, dans la... Il y avait des arbres, là. J'ai jamais vu ça de ma vie. À Québec, j'en ai jamais vu. C'était des arbres particuliers à cette région-là, en fleurs. On était arrivé au moment où, à Québec, on gelait, puis là-bas, c'était le printemps, il faisait beau, il faisait chaud, puis les arbres étaient en fleurs. On était arrivé vraiment dans une saison, on prenait une marche, c'était tellement agréable pour le regard. Je disais à Lucie, elle disait, regarde le bel arbre rose, il avait des blancs, il avait toutes les couleurs. C'était vraiment magnifique. Alors, quand ça nous dit ici que l'Éternel a fait pousser du sol, des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, une deuxième affaire. Donc, le Seigneur avait mis des arbres fruitiers. Il nous dit pas quel genre d'arbre que c'est, mais probablement que tous les arbres où il y a des fruits agréables à manger, bons à manger, si ça nous le dit carrément, agréable à voir et bon à manger. Je me souviens d'une fois, je travaillais à Québec, puis il y avait un monsieur qui aimait faire de la motocyclette. Puis là, il me disait, il était revenu de vacances, il avait été en Floride, en bicyclette à partir de Québec. Il va tout traverser les États-Unis jusqu'en Floride. Et là, il dit, il y a des places, on traverse des champs d'agrumes, des oranges ou des pamplemousses. Il dit, tu rentres là-dedans, puis il n'y a rien d'ouvert, les fruits sont fermés. Ça sent à plein nez les oranges, ça sent à plein nez les pamplemousses, etc. Et si tu passes à travers les endroits où il y a des pêches, bien là, c'est des pêches, ça doit être extraordinaire. Ça sent bon. Alors, l'Éternel nous dit qu'il avait placé toutes sortes d'arbres comme ça pour rendre la chose agréable pour l'homme. Alors, l'ensemble du passage nous enseigne que le jardin de Dieu était un endroit bien réel. Aujourd'hui, souvent, les commentateurs, quand ils vont regarder ce passage-là, ils vont parler comme... de l'Éden comme étant un endroit qui n'était pas un endroit réel. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est un endroit réel? C'est la description à partir du verset 10, où le Seigneur prend la peine de donner une situation géographique en Orient, Et il nous dit, à cause des fleuves, que ça se divisait en quatre bras, il nomme les fleuves. Alors, ce n'est pas un lieu mythique, ce n'est pas un rêve utopique qui est né dans l'esprit de l'auteur. Alors, Moïse prend soin de nous donner des repères géographiques précis et qui étaient probablement familiers à l'époque. Quand on lit les commentateurs du passage 2, là, les érudits essayent de déterminer l'endroit exact où pouvait être le paradis terrestre de l'époque. Il semble que ce soit presque impossible à faire. J'ai lu un petit peu tout ce qu'ils disaient. Il semble que la seule chose qu'on peut dire, c'est que il y a seulement deux fleuves qui sont mentionnés là, qu'on peut affirmer que ce sont des fleuves qui existent encore aujourd'hui. Alors, c'est le Hiddekel. Le Hiddekel, il semble que ce serait le Tigre. Le Tigre qui est mentionné dans le livre de Daniel au chapitre 10, verset 4. Et autre fleuve, l'Euphrate. Les autres fleuves, il semble que les érudits entre eux cherchent à les identifier par des connaissances qu'ils ont sur la géographie du Moyen-Orient de l'époque. Mais comme la plupart des auteurs mentionnent, à cause du déluge, il semble que cette région-là qui est décrite ici ait été dévastée un peu par le déluge et qu'aujourd'hui, c'est très difficile de déterminer avec exactitude où se situait cet endroit-là. Cependant, à cause du fait que c'est mentionné en Orient, on croit que c'est quelque part dans le... Tous les auteurs s'entendent pour dire que c'est fort probablement dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Si vous avez déjà vu des cartes du croissant fertile, c'est vraiment une région du Moyen-Orient où la végétation, tout est un lieu idéal pour vivre. Beaucoup d'eau, des arbres en abondance, des fruits en abondance. Alors, dans le fameux croissant fertile. Alors, beaucoup d'érudits croient que le jardin d'Éden aurait été localisé quelque part en Mésopotamie. Alors, la plupart des auteurs disent aussi qu'on peut se perdre en conjecture sur où ça se situe, parce que quand tu lis les auteurs, il y en a un qui présente une affaire, un autre présente un autre, à cause des noms, ça prend vraiment beaucoup de connaissances pour être capable. Mais je trouve que c'est pas ça le côté, pas ça que le Seigneur veut nous montrer. Il ne veut pas nous montrer l'endroit exact. Il veut nous mentionner quelque chose par rapport à ce qu'il a fait pour l'homme. Dans le verset 8, on apprend un fait important, c'est que ce lieu-là, c'est un lieu divinement aménagé. Si vous aimez, disons que du jour au lendemain, vous tombez millionnaire, puis que là, vous voulez aller vous établir dans la région, dans la partie de Rouyn-Noranda, qui est la plus belle de toutes, où il y a des maisons de 1 million, disons, et plus, et que là, vous n'êtes pas encore bâti, mais vous vous faites bâtir, puis que vous voudriez avoir un endroit agréable à vivre. Qu'est-ce que vous faites? Vous engagez, fort probablement, quelqu'un qui va faire votre aménagement paysager. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans et qui sont très bons. Mais si vous comparez un aménagement paysager fait par le meilleur aménageur paysager du monde, et si vous comparez ça avec l'aménagement que le Seigneur peut faire, moi j'étais littéralement ébloui par voir le jardin, les deux jardins qu'il y a à Vancouver. Vraiment, là, tu rentres là-dedans au printemps, là, moi quand j'avais été, c'était au mois de mai, et c'était littéralement magnifique. Tu rentres là-dessus, tu te promènes, et on dirait que vraiment, quand on dit que c'est un festin pour les yeux, c'est un vrai festin pour les yeux. Les rocailles, l'eau qui coule, tout est arrangé pour que ça soit agréable. Mais imaginez un jardin aménagé par l'Éternel lui-même. C'est ça que ça dit dans le texte. L'Éternel Dieu, Jéhovah Elohim, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Alors, vraiment, c'est aménagé. Alors, les jardins botaniques, en général, sont des endroits magnifiques. Si vous allez l'été, par exemple, au Jardin botanique de Montréal. Magnifique aussi. Vous allez vous promener avec des variétés. Aujourd'hui, ils font des spectacles. Ils prennent des arbres, ils lui donnent des formes particulières, soit une forme d'oiseau, soit une forme de toutes sortes d'affaires. Vous vous promenez là-dedans, c'est un délice sous les yeux. Alors, on sait que les jardins botaniques sont des endroits magnifiques. Ils sont aménagés souvent par des hommes et ils regorgent littéralement de beauté. Alors, ils offrent des plaisirs pour les yeux, n'est-ce pas? Il y a tellement de couleurs, d'aménagement. Souvent, ils vont mettre des petites fleurs, des grosses fleurs. Les petites fleurs sont à travers des fleurs qui sont plus foncées, des petites fleurs blanches avec un fond rouge. Et les gens savent jouer avec ça, c'est extraordinairement beau. Et c'est aussi des plaisirs pour l'odeur. Si vous vous promenez là-dedans et que vous passez à des endroits où il y a des rosiers, ça sent la rose, ça sent merveilleusement bon. Et c'est plus aussi, non seulement pour les yeux, non seulement pour le nez, mais pour l'intelligence. Parce qu'on voit l'intelligence de la personne qui a créé les choses. Si on se promène dans un jardin qui est vraiment bien aménagé, juste ici, le petit jardin d'eau, en Rouyn-Noranda, on voit qu'il y a des gens qui ont fait un effort pour vraiment présenter les choses, que ça soit agréable à se promener dans ce jardin-là, des beaux arbres, des choses bien aménagées, des petits ponts, toutes sortes de choses. Alors, c'est un plaisir à la fois pour les yeux, pour l'odorat et pour l'intelligence. Mais imaginez-vous, si l'homme est capable de nous donner ça, qu'est-ce que ça devait être un jardin planté par l'Éternel lui-même avec son intelligence, avec son sens de l'harmonie, son sens de la beauté, qui n'a rien de comparable avec celui de l'homme, bien entendu. Avez-vous déjà remarqué aussi que le loisir qui est le plus pratiqué par les rois de la terre, c'est quoi? Le jardinage. Prenez n'importe quel livre qui traite de n'importe quel roi et leur plaisir, les rois, c'est d'aménager des jardins. Jardin de Versailles, et si vous vous prenez dans toutes les grandes capitales où il y avait des rois à l'époque, c'était le plaisir du roi. Il y avait probablement une armée de personnes pour l'aider, mais le plaisir du roi terrestre, c'est d'aménager un endroit qui est agréable à voir, agréable à se promener dedans, agréable pour le nez, agréable pour l'intelligence, parce que tu ne peux pas faire autrement que de voir l'intelligence de celui qui l'a aménagé. Alors, si les hommes sont capables de nous charmer avec leur créativité, combien plus un jardin exclusivement divin devait-il être splendide au-delà de toute description? L'environnement d'Adam comblait littéralement tous ses besoins. Parce qu'on le dit, des arbres avec tout ce qui... Imaginez-vous un fruit. Je me souviens une fois, j'étais à Farnham, puis il y a un monsieur qui avait été en Floride, puis il avait ramené des oranges qui étaient grosses comme un pamplemousse, vraiment grosses. Et ces oranges-là étaient mûres. Nous, on est habitués au Québec, ici en général, les fruits qu'on achète à l'épicerie, c'est des fruits qui ne sont pas mûrs. Alors souvent, ils sont surettes un peu, sont plus ou moins bons. Mais un fruit qui vient de Floride, puis qui a été cueilli au moment qui est mûr, je vous garantis que quand on goûte à ça, on n'oublie pas. Je m'en souviens encore, pas longtemps. Là. Et je me dis, allez. Là, il était dans un jardin. Je me souviens, j'avais un malgache qui venait chez nous à Québec, pendant que j'étais à Québec. Et apparemment, qu'à Madagascar, les arbres fruitiers, c'est légion. Il me racontait les sortes de fruits. Il dit, il y a des fruits, là, l'intérieur est comme blanc et ça goûte la crème glacée. Il dit, es-tu sérieux? Je n'ai jamais goûté ça au Québec. Mais je te le dis. Puis là, il me racontait que partout où ils vont dans la campagne, eux autres, ils cueillent des fruits à même les arbres. Tous, ils ramassent ça. Ils ramassent ça comme nous, ici, on peut ramasser des pommes. Là. Mais eux, c'est vraiment des fruits de toutes les catégories, de toutes les saveurs, toutes les couleurs. Ça devait être extraordinaire. Alors, c'est un lieu qui est, ce qu'on pourrait dire, divinement luxuriant. Quand on parle d'un endroit luxuriant, le dictionnaire définit le mot luxuriant de la manière suivante, qui pousse, se développe avec une remarquable abondance. L'abondance qu'il devait y avoir dans l'Éden, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Donc, le jardin de Dieu était donc un festin visuel, une source riche, variée, délicieuse et intarissable de nourriture. Quand tu notes autour de toi et que toutes les variétés sont là, parce qu'il disait toutes sortes d'arbres. Là, il va y avoir des pêchers, il va y avoir des raisins, il va y avoir des pommes, il va y avoir des poires. Et imaginez-vous, quand vous les cueillez à l'arbre même, ça ne peut pas être plus frais que ça. C'est rare qu'on mange des fruits, nous autres ici au Québec, qui sont de cette nature-là. Je me souviens, des fois, on essaie de trouver des poires, l'été. Il y a quelques années, on arrivait à trouver des pêches qui étaient mûres, mais il fallait que tu les manges rapidement parce que dès la moindre, tu cognais ça, ça devenait brun, comme on dit, mais des fruits mûrs. Imaginez-vous, ils étaient tous les deux là-dedans et il y avait toutes ces choses-là à manger, une variété extraordinaire et intarissable, ils devaient en avoir au-delà de leurs besoins. Alors, c'était vraiment un endroit luxuriant. Alors, le jardin aussi avait une autre caractéristique que le texte nous dit. Il était richement arrosé. Alors, c'est sûr que si, à travers le jardin, les fleuves passaient là, il y avait de l'eau en masse. Et on sait que le secret d'un bon jardin, que s'il est bien arrosé, ça fait, ça donne des bons résultats. C'est aussi, bien entendu, dans le verset 9b, un lieu de vie. Parce que ça dit que l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Donc, c'est un milieu de vie. Quand on se promène dans un jardin de même, juste ici, le petit jardin qu'on a à Rouyn-Noranda, c'est vraiment agréable de se promener là-dedans. Tu vois la vie sous toutes ses formes se produire là. Ça nous dit que Dieu avait placé l'arbre de la vie au milieu du jardin. Cependant, l'arbre de vie, il faut lui donner la bonne interprétation. Il ne faut pas s'imaginer que c'était un fruit qui avait une substance à l'intérieur qui empêchait de vieillir ou qui empêchait de mourir. Dans le jardin de Jéhovah Elohim, un arbre particulier parle d'une plénitude de vie, d'une vie divine dont le jardin est rempli. Car Dieu a jugé bon d'être présent. Alors, la vie était présente, omniprésente, on peut dire, dans le jardin de Dieu. Alors, l'homme et la femme jouissent déjà de la présence de Dieu et vivent en communion avec lui en se nourrissant de l'arbre de la vie. Ils expriment matériellement cette réalité-là, qu'ils étaient en communion avec lui. Dans le Nouveau Testament, le fait de manger le pain et de boire la coupe du Seigneur, bien entendu, ne donne pas la vie spirituelle. Si quelqu'un vient ici ce matin qui n'est pas un chrétien, puis même s'il prendrait le pain et le vin, c'est pas ça qui va lui donner la vie spirituelle. Il faut que la vie spirituelle soit déjà présente. Alors, mais ça illustre que le chrétien se nourrit par la foi des bienfaits de la mort de Christ pour sa vie et pour son salut. Et dans le verset 9b aussi, c'est un lieu de crainte du Seigneur. Comment on le voit? Parce que ça nous dit qu'il y a là, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, la crainte du Seigneur, ça l'impliquait que si tu touches, parce qu'il l'avait, dans les versets suivants, on va voir qu'il l'avait, lui avait fait un avertissement à ce côté-là. Donc, le jardin est un lieu où la volonté de Jéhovah Elohim doit être respectée et accomplie et où l'être humain vit dans la dépendance de Dieu. Un des péchés qu'ils ont commis, c'est de vouloir être indépendant de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, l'homme a tendance à vouloir être indépendant de nature. Comme chrétien, nous, on se doit de se réhabituer à être dépendant, mais pas dépendant des hommes, dépendant de Dieu. Alors, cet arbre-là, n'était pas non plus un arbre qui contenait un tonique qui augmente le savoir de l'individu. En pensant à l'avertissement que celui qui en mange mourra, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit appelé l'arbre de la mort. Mais rien dans le jardin n'est contraire à la vie. Le fruit de cet arbre ne contient certainement aucun poison. Alors, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise et représente la capacité pour l'homme d'être moralement autonome. En prenant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme l'homme, il veut s'approprier le fait de choisir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. N'est-ce pas là où on est rendu aujourd'hui quand on regarde la société en général? L'être humain ne veut plus se faire dire de l'extérieur par quelqu'un, qu'il soit Dieu ou qu'il soit qui que ce soit, comment ils se doivent de vivre. Ils veulent être la mesure du bien et du mal. C'est eux qui déterminent ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne faut pas dire aux gens aujourd'hui que l'avortement est mal. Vous essayerez pour le fun de le faire dans une assemblée où il y a 200 femmes modernes. Vous allez voir que vous allez vous faire recevoir. Alors, les gens ne veulent plus, ils veulent que ce soit eux qui déterminent qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Puis si eux disent que l'avortement est bien, ben ils vont le faire. Et tous ceux qui vont se mettre en opposition à eux, ils vont avoir la vie dure, comme on dit. Alors, c'est un test d'autonomie morale, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu détermines que c'est toi qui vas déterminer qu'est-ce qui est bon, tu veux connaître. Alors, le Seigneur a dit non. L'autonomie morale, l'homme ne doit pas la connaître ni avant son salut, ni après. Alors, aussi, on voit que dans les versets 10 à 15, c'est un lieu, j'ai trouvé le mot subjectif et évocateur. Parce qu'il y a des mots là-dedans que quand on les lit rapidement, on ne fait pas nécessairement de lien avec d'autres passages des Écritures. Il y a deux mots là-dedans qui sont importants et qui vont revenir plus tard dans les Écritures pour parler de ces mots-là. Et ces deux mots-là sont l'or et la pierre d'onyx. Et si on recule de quelques mois, on a fait une étude sur le tabernacle. Qu'est-ce qui était très présent dans le tabernacle? La partie interne, l'or. Et qu'est-ce qu'il y avait sur les pierres, sur le sacrificateur? Il y avait des pierres qui étaient là et la pierre d'onyx était là aussi. Pensez-vous que c'est des hasards, que ces choses-là? Je me souviens d'avoir déjà lu, dans le temps j'étais à l'école biblique, il disait... Il y avait des Juifs, ils appelaient ça des colliers de perles, des colliers de versets. Je ne me souviens plus du nom qu'ils donnent à ça, là. Mais quand tu prends, disons, les deux mots or et onyx, pierre d'onyx, et que tu vas fouiller un petit peu partout dans les Écritures où sont redits ces mots-là, dans quel contexte et dans quelle signification, quel enseignement ça va amener. C'est un peu ça que je vais vous dire ce matin. Quand je vous dis, c'est un lieu subjectif et évocateur. Ces mots-là ont pas été mis là juste pour dire qu'il y avait des pierres d'onyx et qu'il y avait de l'or dans ces endroits-là. C'était pour plus tard nous présenter d'autres choses. Alors, bien sûr, le jardin représente le ciel sur la terre. Un endroit pareil, qui ne voudra pas vivre là? Une sorte de sanctuaire. En parcourant Moïse, on ne peut qu'être frappé par les nombreuses ressemblances entre le jardin d'Éden et le tabernacle, comme le jardin était le prototype du tabernacle, puis du temple. Alors, bien entendu, on ne fera pas une étude exhaustive de ça ce matin, prendre tout ce qui parle d'or là, et aller voir tout ce qui parle d'or dans le livre de l'Exode, mais c'est pour dire que ces mots-là sont là, et ils devraient allumer en nous, parce qu'on a lu d'autres passages où on parle des mêmes choses. Alors, dans le tabernacle, il y avait quoi qui était en or? Massif. Le chandelier d'or. Souvenez-vous, dans le Saint, il y avait le chandelier d'or. Et le chandelier d'or, il était fait en forme d'arbre. un chaud au centre avec 6 branches à côté. Donc, chandelier d'or a une référence avec l'arbre là-dedans. Alors, ça représente vraiment, le chandelier d'or dans, du tabernacle représente un arbre stylisé, qui est l'arbre de vie. Alors, qui ça représentait? Ça représentait Jésus-Christ, on le sait, l'or massif, l'or pur. Alors, la volonté révélée de Dieu, associée dans le jardin à l'arbre de la connaissance, occupe une place centrale dans le tabernacle, puisqu'elle est entreposée dans l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le... il y avait les pierres précieuses, sont mentionnées aussi pour attirer l'attention sur les pierres d'onyx, et ils étaient sur le pectoral. Je me souviens que, si vous vous souvenez, là, c'était sur le pectoral, et puis il y avait une pierre d'onyx. Alors, c'est des choses qui peuvent nous amener à réfléchir, à méditer sur d'autres endroits dans les Écritures où on utilise l'or. Alors, dans le jardin, comme plus tard dans le tabernacle, Dieu daigne entrer en communion avec l'être humain. Une différence de taille sépare cependant le jardin d'Éden du tabernacle. Et quelle est cette différence? Dans celui-ci, seul le souverain sacrificateur a accès à Dieu seulement une fois par an. En Éden, Adam et Ève rencontrent Dieu face à face sans crainte ni honte. Et vous, déjà, dans le tabernacle, c'était juste le souverain sacrificateur qui voulait indiquer prophétiquement et symboliquement que c'était uniquement Christ qui était qualifié pour entrer dans le Saint des Saints. Alors, en Éden, Adam et Ève rencontrent Dieu face à face, puis ils ont ni crainte ni honte. Alors, bien entendu, le jardin de l'Éternel est le temple terrestre de Dieu. Et la désobéissance a fait perdre tous ses bienfaits aux hommes. Dans le verset 15, il y a une autre chose qui est mentionnée, qui est intéressant, c'est l'Éden est un lieu d'activité. Souvent, on se rapportait à penser que le bonheur total, c'est de ne pas travailler. Mais le vrai bonheur, c'est d'être... de faire ce que tu veux puis que tu aimes. Parce qu'on n'est pas fait pour rien faire. Il n'y a rien qui, comme Félix Leclerc le disait dans une de ses chansons, il n'y a rien qui tue plus un homme que le chômage. Parce que le chômage, ça finit par nous écraser et ça nous enlève toute créativité. Et Dieu nous a créés pour qu'on puisse faire des choses. Alors, il nous dit dans le verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, et là, il nous dit pour deux choses, pour le cultiver et pour le garder. Alors, il n'y a rien dans le passage qui indique que la vie en Éden se déroule comme des vacances perpétuelles, que l'homme flâne là à rien faire, il s'ennuie à mourir. Il est faux de penser que le travail est une conséquence de la chute. Dieu est un être actif et il a créé l'homme pour être actif. La Bible révèle pourquoi le travail est important pour notre bien-être. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Dieu nous a créés pour travailler, pas pour rester oisifs. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? On devrait utiliser nos forces physiques, nos capacités intellectuelles à des activités qui honorent Dieu. Dieu place Adam dans le jardin pour cultiver le sol et le garder. Donc déjà pour lui, ce n'était pas quelque chose de désagréable que de s'occuper de cultiver le sol. Et certains croient que le garder, c'était une indication pour dire que de ne pas laisser entrer d'intrus dans le jardin. Certains auteurs pensent que c'est ça en voulant dire pas laisser rentrer comme là, il aurait laissé rentrer le serpent, mais en tout cas, je sais pas si on peut vraiment interpréter ça comme ça. Mais pour le garder, alors il avait donné une double mission, cultiver le jardin et le garder. Alors, bien entendu, on l'a mentionné tantôt, le mot « Éden » veut dire « plaisir et délices ». C'est intéressant aussi de voir que la version grecque de l'Ancien Testament, qui est la Septante, alors les Juifs avaient traduit la Bible alors qu'il s'était éparpillé un petit peu partout dans le monde, et la langue qui dominait, un peu comme l'équivalent de l'anglais aujourd'hui, c'était le grec. Alors, il avait pris l'Ancien Testament et il l'avait traduit en grec. Cette version-là, de l'Ancien Testament traduit en grec par les Juifs, ça s'appelle la Septante. Dans la Septante, le mot « jardin d'Éden » a été traduit par « le paradis des délices ». Intéressant quand même, hein? Les Juifs ont pris le mot « Éden » et leur façon de le traduire, ça a été « le paradis des délices ». Alors, si tu prends la version des Septantes et tu regardes dans Genèse 3, 23, où on parle « le jardin d'Éden », eux ont traduit par « le paradis des délices ». Quand on est dans un endroit où on dit que tout est délice, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui te déplaît là-dedans. C'est une idée qui rejoint un petit peu aussi celle du Nouveau Testament, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, où il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. » Et écoutez bien la dernière partie. « De la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » L'Éternel nous a placés, et combien de choses dans une vie on profite de la beauté des fleurs, de la beauté des arbres. Il nous a donné toutes choses pour que nous en jouissions, pas pour que nous en abusions, pour que nous en jouissions. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la question de l'approbation divine. Donc, la première question qu'on avait regardée, c'est vraiment la provision divine. Donc, Dieu place l'homme et la femme dans un contexte absolument agréable à vivre à l'intérieur. Donc, il avait pourvu à absolument tous leurs besoins sans aucune exception. Maintenant, il arrive au verset 16 et 17. Et là, il y a quelque chose d'important qui est mentionné, qui nous amène tranquillement, pas vite, vers le chapitre 3, où il va y avoir la description de la chute. Alors, dans le verset 16, ça dit « L'Éternel Dieu donna un conseil? » Non. « L'Éternel Dieu donna cet ordre. » Ceux qui ont déjà fait de l'armée, moi je l'ai déjà fait, là. Quand un officier qui venait à côté de Marcel, il disait « Je te donne l'ordre de faire ci, de faire ça, il fallait que tu t'exécutes, comme on dit. » Un ordre venant d'un supérieur, même dans l'armée ou même dans un milieu de travail, normalement, quand un supérieur te dit quelque chose, c'est sûr que tu peux désobéir, mais si tu désobéis, tu risques de subir les conséquences qui vont avec. Mais ici, l'Éternel dit « L'Éternel Dieu, donc Jéhovah Elohim, le Dieu d'alliance trinitaire, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et dans le chapitre 3, on va voir comment le malin avait amené la tentation. Et pour dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, il va mettre en question la manière dont Dieu va parler. Dieu s'exprime d'une façon extrêmement claire. On ne peut plus être clair que ça. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et bien entendu, on fait appel aux trois sortes de morts, physique, spirituelle et éternelle. Alors, Jéhovah Elohim est le Dieu infiniment sage et juste, qui seul possède le droit de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme ne doit pas vivre indépendamment de Dieu. C'est-tu naturel qu'on veuille être autonome? Tous les hommes cherchent à être autonomes. On voudrait être dépendant de personne. Et même, on serait porté à même dire même de Dieu. Alors que les Écritures nous disent que comme chrétiens, on se devrait de réapprendre à être complètement dépendant de Dieu en tout temps et en toute chose. C'est une chose qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Alors, l'homme ne doit pas vivre indépendamment de Dieu. Dieu a le droit absolu de diriger nos vies et toutes nos décisions morales doivent se prendre en référence à lui. Toutes nos vies sont remplies de décisions morales. Est-ce que je fais ci? Est-ce que j'obéis ici? Dans une courte journée, là, le nombre de décisions morales que vous faites, là, il y en a un grand, grand nombre. Et comment on fait pour savoir, nous, si telle décision que je dois prendre, si elle est bien ou si elle est mal? C'est notre connaissance des Écritures. C'est notre connaissance du décalogue. C'est notre connaissance, en général, de la formation qu'on a reçue depuis qu'on est chrétien. C'est ça qui nous détermine. Disons que quelqu'un te pose une question, il s'attrape à l'allège un peu parce que tu aurais le goût d'y compter une menterie. Facile, hein? Tout le monde ment. Tout le monde ment autour de bras. Si quelqu'un vous pose une question, là, tu pourrais compter une menterie. Mais des fois, il y a un petit quelque chose qui se passe dans ta tête, tu dis, non, mentir, c'est pas bien. Alors, au lieu de mentir, tu dis la vérité. Mais c'est une décision morale. Comment tu as fait pour aller chercher ta référence, pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, si ça ne vient pas des Écritures? Ça vient des Écritures. Peu importe le comportement qu'on a au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois, au cours d'une année, vous en avez fait des choix moraux au cours de l'année par milliers, par dizaines de milliers. Certains heureux, d'autres moins heureux. Quand on fait le mauvais choix, qu'on choisit de faire le mal au lieu de faire le bien, bon, on vit avec les conséquences aussi. Alors, c'est vraiment extraordinaire de regarder que cette probation-là, elle avait été exprimée par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui dit à Adam. Pas, il ne sert pas d'un intermédiaire. Il lui parle de façon directe. Et cet ordre-là exigeait la pleine obéissance et ça ne lui enlevait rien et ça ne restreignait en rien sa liberté. C'est facile d'obéir. À pas y toucher, pas d'en manger. Il se devait seulement d'obéir à Dieu, qu'il l'avait si gracieusement placé dans un environnement aussi idéal. Et il lui dit aussi, vraiment dans les versets 16 et 17, il lui explique tout dans ce qu'il peut manger. Autrement dit, tu peux manger tout ce que tu veux. Puis de la manière que les Écritures nous parlent, il y avait une grande variété d'arbres fruitiers. Tu pouvais manger de tout, excepté celui-là. Ce n'était pas pour priver l'homme de quelque chose auquel il avait droit. C'était pour qu'il confirme par son comportement, par sa compréhension, que son obéissance à Dieu devait passer par-dessus toute chose. Qu'il ne se devait pas de vouloir être autonome moralement. Et cette probation-là est exprimée aussi dans le fait qu'il y a une sanction qui est rattachée à la désobéissance et qui ne peut pas être plus claire. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on va le voir quand on va arriver au chapitre 3. Ils n'ont mangé, ils sont morts. Pas tout de suite physiquement, mais tout de suite moralement. Et tout de suite, s'il n'avait pas été reçu la grâce de Dieu, il aurait été en enfer pour l'éternité. Alors, l'interdiction est aussi catégorique dans cette affirmation-là que dans celles qui sont exprimées dans le décalogue. Il n'en a donné juste une. Nous, on en a plus aujourd'hui. Mais lui, il n'avait juste une. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Alors, désobéir, c'était mourir. Alors, bien entendu, Adam avait été rendu attentif au fait que la communion avec Dieu et la jouissance de sa vie dans les conditions dans lesquelles l'idéal qui était placé. Ça impliquait l'obéissance. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire qu'une vie heureuse pour un chrétien, c'est une vie d'obéissance? Quand on n'est pas dans l'obéissance que Dieu nous donne, dans les Écritures, il y en a qui n'aiment pas ça, se faire dire que c'est plein de commandements, les Écritures. C'est plein de commandements. Regardez les verbes à l'impératif qui sont dans les Écritures, qui nous parlent à nous. Dieu nous parle, il nous parle à nous. À l'impératif. Des ordres qu'il nous donne. Quand on désobéit, on est malheureux. Souvenez-vous des passages dans les livres des psaumes, quand David a eu sa chute, il a couché avec Bathsheba. Je pense que c'est dans le psaume 51, où il nous parle de son état d'âme. Il y avait la mort dans l'âme. Il n'y a plus rien qui allait dans sa vie. Nous, c'est la même chose. Si on fait des péchés de façon consciente, contre Dieu, contre la volonté révélée de Dieu, ça ne peut pas emmener du bonheur dans nos vies. C'est impossible. Si vous êtes réellement régénéré par Dieu et que vous désobéissez au Seigneur dans quelque commandement que ce soit, ça nous rend malheureux. La raison pour laquelle le Seigneur nous a dit qu'on se devait de confesser nos péchés, parce qu'il savait qu'on en accomplirait même après notre salut, on se doit de les confesser régulièrement, et plus que régulièrement, je dirais instantanément. Quand on voit qu'on a fait quelque chose, on se devrait de confesser immédiatement, de ne pas attendre, parce que le risque, quand on attend trop longtemps, c'est des fois de s'encrouter dans le péché encore davantage. Alors, dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 3, les versets 5 à 7, on a un résumé de ce que la Bible enseigne dans ce passage-là. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Dans le fond, ce qu'on vient de voir, nous, comme chrétiens, juste ce verset-là, là, ça devrait être suffisant. Si on agirait en pleine conformité avec ce que ce verset-là nous enseigne, de se confier en l'Éternel de tout notre cœur, c'est beaucoup, là. Ensuite, de ne pas s'appuyer sur notre sagesse, on est souvent porté à faire ça. Ceux qui ont lu le bulletin récemment sur la vie de George Mueller, sur la manière dont il priait, sur la manière dont il a appris à dépendre de Dieu en toutes choses, quand vous avez 2000 orphelins à vous en occuper et qui manquent de nourriture, s'appuyer sur la sagesse humaine, ça serait quoi? Ça serait d'appeler tous les êtres humains que tu connais qui ont de l'argent ou qui pourraient te sortir du trou, puis de demander de l'aide humaine. Lui, il a dit, dès le début de sa vie chrétienne, il a dit, « Je veux apprendre à dépendre de Dieu en tout temps et en toutes circonstances, peu importe la circonstance. Si tu as 2000 enfants qui dépendent de toi, puis ils ne mangeront pas de la journée, et que tu as adopté le principe de dépendre de Dieu en toutes choses, tu dis à Dieu, « Seigneur, tu sais que j'ai 2000 enfants à nourrir. » Hey, je disais, tu penses que c'est dans le bulletin aujourd'hui, où lui et un autre priaient durant la nuit parce qu'il n'y avait rien à manger pour les 2000 enfants le lendemain. Puis durant la nuit, il y a des gens qui sont venus y donner suffisamment de nourriture pour nourrir les 2000 enfants le lendemain. Il semble-t-il qu'il n'avait assez pour un mois. Mais lui, quand il priait avec son ami, il ne savait pas que ça arrivait. Mais imaginez-vous une vie où à tous les jours, tu apprends à ne pas dépendre des hommes, à dépendre totalement, uniquement et absolument de Dieu. Moi, personnellement, je vous l'avoue bien humblement, je suis bien loin de là. Parce que c'est tout un travail, c'est toute une mentalité qu'il faut que tu développes, de toujours faire confiance à Dieu, peu importe tes circonstances. Pas aux hommes, à Dieu, lui-même. C'est ça qui a fait, qu'a fait un homme de Dieu, où on en parle encore aujourd'hui, après plus de 100 ans. où on admire sa vie de prière, où on admire sa vie de sanctification, etc. Pourquoi? Parce que durant toute sa vie, il a adopté le principe et il l'a maintenu. Ce qui a fait en sorte que peu importe son besoin, tu n'as pas juste les enfants, là, ses besoins personnels, sa famille, sa ville, il voulait aller quelque part, il n'était pas sûr que c'était la volonté de Dieu. On l'a vu dans les bulletins précédents, il priait Dieu puis il disait, tu vas me le montrer par les Écritures, par les circonstances. Puis il dit que quand il a pratiqué ça de façon régulière, il ne s'est jamais trompé. Dieu l'a toujours conduit, Dieu l'a toujours honoré, et à la fin de sa vie, il était rendu dans les 80-90, voyageait partout à travers sur la terre, donnant des leçons aux chrétiens sur la prière. Mais pourquoi il était en mesure de donner des leçons aux chrétiens sur la prière? On peut leur donner des leçons sur la prière, faire des beaux sermons sur la prière. Je pense que la première question à poser à celui qui te fait un sermon sur la prière, combien tu pries de temps par jour? Et tu viendrais juste de détruire son petit château de cartes. Si quelqu'un dit que la prière est importante, puis qu'il ne prie pas, ben, quelque part, y a-t-il quelque chose à t'enseigner, cet homme-là ou cette femme-là? Ils n'ont rien à t'enseigner. Parce que si tu dis que tu crois en quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est parce que pour toi, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais tu peux dire du haut de la chair, ah, des beaux sermons avec des belles phrases. Mais tu sais, la vie chrétienne, ce n'est pas des phrases. La vie chrétienne, c'est de la réalité. Et lui avait appris à dépendre de Dieu, et je peux vous dire une chose, que ce n'est pas une affaire qui est facile à apprendre. C'est un processus qui est lent, qui est quotidien, et qu'on se doit de répéter, de répéter, de répéter, pour en arriver à ce que ce soit un réflexe. On ne dépend pas des hommes. Dieu est capable de combler quelques besoins que ce soit, même des choses qui nous semblent impossibles. Si tu n'as rien à manger, il est rendu 10 heures le soir, tu n'as rien à manger pour 2000 enfants le lendemain matin, ça te semble-tu quelque chose d'impossible ou ça ne te semble pas quelque chose d'impossible? Tu dis, ben voyons donc, ils ne mangeront pas demain matin. Pourtant, si tu lis sa biographie, les enfants n'ont jamais manqué de rien. Et on va regarder le troisième point, qui est le révélateur d'une prophétie divine. Donc, Jéhovah Elohim prépare un lieu de vie pour le premier couple humain. Mais Dieu en prépare aussi un pour tout son peuple racheté. Jésus a dit, quand il est venu sur cette terre, « Je vais vous préparer une place. » Un peu comme le jardin était une place. Le Seigneur a dit qu'il s'en allait nous préparer à nous une place. Alors, l'arrangement du jardin d'Éden, bien entendu, n'est rien comparé au coût exigé pour la préparation de la patrie céleste. Alors, pour que Dieu puisse nous offrir la patrie céleste, il y a quelqu'un qui a payé un prix, le prix de la rédemption. Ça a coûté cher pour l'avoir, ce paradis-là. C'est intéressant de noter ce que la Bible nous enseigne sur notre paradis qu'on va connaître un jour, de se le rappeler, de se le faire dire par les Écritures elles-mêmes. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. » Autrement dit, tu es en train de te dire que tout ce que tu as vu sur la terre, puis ce que tu vas voir dans le paradis céleste, personne n'a jamais vu ça. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses au ciel pour l'oreille qu'on n'a jamais... Moi, il y a des genres de musique qui me font littéralement lever, comme on dit, le poil sur les bras. Là. Tellement c'est beau, ça vient te chercher, comme on dit. Mais moi, je peux trouver la plus belle musique du monde, je peux la trouver excellente. Mais Dieu me dit ce que je vais entendre dans le paradis céleste. Je n'ai jamais rien entendu comme ça. Alors il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Autrement dit, même si j'essayais, avec toute la force de mon imagination, d'essayer de comprendre le côté glorieux, le côté fantastique du ciel, Il dit, ça ne m'est jamais monté au cœur de l'homme. Alors, comment j'essaierais? C'est des choses qui sont au-delà de notre vision, au-delà de nos oreilles, au-delà de notre capacité de conception. Il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, autrement dit, il nous prépare des choses extraordinaires. Il y a toutes sortes de mentions qui sont données dans les Écritures par rapport à la description de tout ça. Mais il nous dit qu'on ne l'a jamais vu. Il utilise des images, l'or, les rues pavées d'or. Mais il veut dire des choses qu'on n'a point vues, des oreilles qu'on n'a point entendues, des choses qu'on les oreilles n'ont pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est qui, ceux qui l'aiment? C'est nous. Il a préparé des choses qu'on n'a jamais vues. Il a préparé des choses qu'on n'a jamais entendues. Il a préparé des choses qu'on n'a jamais même conçues, qu'il va nous donner plus tard. Alors, en parlant du paradis terrestre, c'est comme aussi une évocation du paradis céleste. Alors, à l'heure actuelle, quand Dieu nous parle du paradis, on peut parler du paradis actuel pour les hommes tant qu'on ne sera pas établi dans la Jérusalem d'en haut. Le Nouveau Testament nous parle de l'état présent pour les croyants, comme de quoi on est membre d'un royaume céleste, de la Jérusalem, de la Nouvelle Jérusalem. Alors, à l'heure actuelle, quand un chrétien est mort, il va où? Au ciel. Il va à leur mort, ils sont immédiatement dans la présence de Christ. Est-ce que c'est intermédiaire ou final? Non, intermédiaire. Parce que dans le temps que tu es là, tu as ton esprit qui va rentrer en présence de Jésus-Christ, mais ton corps, lui, il va venir plus tard. Alors, là, actuellement, les êtres humains qui sont avec Jésus-Christ sont dans un état, dans un paradis qu'on pourrait appeler intermédiaire. Mais ils vont éventuellement, au retour du Seigneur, là, entrer, leur corps va ressusciter, vont en reprendre possession. Et pour nous montrer cela, dans les Écritures, dans Luc 23, verset 43, le brigand repentant, qu'est-ce que Jésus lui dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais aujourd'hui, le brigand était là avec son esprit. Son corps, il n'est pas là. Il va en prendre possession dans l'état final. Alors, mais les Écritures nous parlent aussi de cet état final comme un lieu de futur repos. Alors, les croyants dans l'état final, les croyants ne seront pas des esprits désincarnés pour l'éternité. Autrement dit, dans le ciel, quand on va être rendu, quand on va avoir récupéré nos corps, on ne sera pas des esprits désincarnés. On va avoir repris nos corps. Et dans la nouvelle, dans la vision de la nouvelle création, Jean aperçoit la Nouvelle Jérusalem descend du ciel d'auprès de Dieu. Alors, Jésus nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Voyez-vous, la Genèse, l'Apocalypse, les deux bouts. On parle de l'arbre de vie au début, on parle de l'arbre de vie à la fin. Il dit, l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, Jean décrit plus en détail la ville jardin. Il dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et Dieu lui-même vit au milieu de son peuple. » On parle d'un fleuve aussi, le fleuve de la Genèse, dans là qu'on vient de voir, devient un fleuve d'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, et l'arbre de vie devient une rangée d'arbres de chaque côté du fleuve. C'est drôle de voir les images du début, de voir les images de la fin. Il y a comme quelque chose d'intéressant à voir là. Alors, toutes les images utilisées dans l'Apocalypse évoquent la surabondance et la vie dans une plénitude qui dépasse tout ce que pouvait contenir le jardin original. S'il nous dit dans 1 Corinthiens 2 que ça dépasse ce qu'on a vu, ça dépasse ce qu'on a entendu, ça dépasse ce qu'on peut concevoir, ça veut dire qu'est-ce qu'il va avoir l'autre bord? Le paradis céleste va être plus beau que le paradis terrestre. Puis j'imagine un petit peu, ici on vit dans une société où tout était pollué. Et on trouve ça encore beau. Imaginez-vous quand c'était pas pollué. Mais les Écritures nous disent que le paradis terrestre, comparé au paradis céleste, c'est des choses qu'on ne peut pas concevoir. Et il y a des choses, il y a des caractéristiques aussi dans ce jardin-là que le Seigneur va nous donner. Et que les malfaiteurs seront bannis. Qu'est-ce qui est rentré dans le premier jardin? Satan. Dans le deuxième paradis céleste, il n'y a pas aucun mal qui va entrer là. Et il ne sera jamais envahi par des séducteurs, ni souillé par le péché. Et toute opposition à Dieu va être littéralement jetée dans le lac de feu. Alors le peuple de Dieu va obéir comparativement au paradis terrestre, l'être humain a désobéi, mais dans le paradis céleste, tous les êtres qui vont être là, anges, hommes, vont obéir de façon parfaite à Dieu en tout temps, en toutes choses. C'est sûr qu'il va y avoir du bonheur, parce que l'amour va être là et il n'y aura jamais de péché qui va se produire là. Alors, il n'y aura plus non plus d'anathème ni de malédiction, parce qu'on voit ici, il dit, si tu manges de l'arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Dans la patrie céleste, dans le paradis céleste, il n'y a plus ni d'anathème, ni de malédiction. Alors, c'est un endroit extraordinaire. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? J'en vois trois. Il peut y en avoir beaucoup plus que ça, là. La première, je dirais, bénissons notre grand Dieu pour son infinie générosité, pour le bonheur de l'homme et son activité. Dans le psaume 105, verset 4, ça dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Voyez-vous, une autre affaire par rapport à l'activité, Proverbe 12, verset 27, « Le paresseux ne redit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Dieu nous a donné l'activité, et il nous a donné plein de choses à jouir, comme on dit, il nous a donné plein de choses pour que nous en jouissions. Ça, il faut arrêter parfois et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Il nous donne tellement de choses. Si on ferait une liste sérieuse et qu'on n'oublierait rien de tout ce que le Seigneur nous donne, je pense qu'on passerait notre vie à écrire. Parce qu'il y a plein de choses, il nous en donne tellement. Deuxième application, apprenons que le bonheur de l'homme consiste à apprendre à vivre dans l'obéissance et dans l'entière dépendance de Jéhovah Elohim. Le bonheur, les hommes le cherchent à toutes sortes d'endroits, même comme chrétiens, des endroits différents. Pourtant, il y a une seule place où on va le trouver, c'est dans Jéhovah Elohim lui-même. Alors, implorons le Seigneur de nous donner une vie caractérisée de plus en plus par l'obéissance et par la soumission à sa volonté. Et dernière application, les saintes Écritures sont très riches en enseignements prophétiques. Plongeons dans l'étude et la méditation de la prophétie. Elle nous parle de Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous en serons profondément bénis et remplis d'émerveillement. Les Écritures on dit qu'un tiers des Écritures, c'est de la prophétie. Voir la prophétie et la développer au cours de tout, c'est très enrichissant. Le Seigneur n'a pas donné le tiers de toutes ses Écritures en prophétie juste pour... C'est parce qu'il veut qu'on les étudie. C'est des choses qui méritent d'être étudiées. Et plus on les étudie, plus on les médite, plus on est béni, plus on comprend les Écritures également. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré éternellement.